Jusqu'à l'appel, c'est un documentaire réalisé par Anne Hirsch et Arnaud Mansir. Un film qui était en compétition dans la catégorie Autrement vu pour la 30e édition du FIGRA, Festival international de grands reportages d'actualité et de documentaires de société, qui s'est déroulé du 30 mai au 4 juin dernier. Une catégorie qui pose un autre regard sur la réalité du monde, plus personnel, plus intime, avec des portraits, des vies bousculées. Jusqu'à l'appel suit la vie d'Alexandre Chaconne, qui se retrouve pour la deuxième fois devant un tribunal. Il est accusé d'avoir secoué son bébé il y a 9 ans et d'avoir ainsi causé sa mort. Il a été acquitté en première instance, aux assises, mais le parquet a fait appel et il attend maintenant le second procès. Depuis le drame, toute sa vie et celle de sa famille tournent autour des échéances judiciaires. Entre peur et détermination, muet en enquêteur de sa propre histoire, il se bat pour la vérité, pour prouver son innocence. Comme stipulé dès le début du documentaire, l'intention de ce film n'est pas de nier la réalité de la maltraitance dont des centaines d'enfants sont victimes chaque année, elle est de s'interroger sur une marge d'erreur conséquente qui condamne à l'enfer judiciaire de nombreuses familles déjà éprouvées. On écoute la bande-annonce et on retrouve ensuite les réalisateurs, Anne Hirsch et Arnaud Mansir, pour parler du documentaire.
L'acquittement. 4 octobre 2019, 12h30. Tous les coups. Ne pas me laisser griser par le bonheur de la victoire. J'ai tué mon bébé. Point.
C'était une enquête qui a été menée par un journaliste d'investigation qui s'appelle Bernard Nicolas et qui a fait tout un travail sur le problème de la question des bébés secoués et la façon dont la justice répondait à ces problèmes de violence envers les tout-petits. Grâce à des témoignages de professeurs de neuropédiatrie notamment, il a pu établir qu'il y avait un grand souci au niveau du diagnostic qui avait été souvent établi pour certains de ces cas, et que donc des familles étaient embarquées dans des procédures judiciaires qui pouvaient les poursuivre du coup assez longtemps, et que il y avait un vrai sujet, un vrai questionnement à avoir sur la question de la culpabilité de certaines familles.
Est-ce qu'on sait aujourd'hui, est-ce qu'on a quelques chiffres en fait sur le nombre de bébés secoués ou de familles accusées à tort?
En fait, les chiffres sont très difficiles à établir compte tenu de ces erreurs de diagnostic. Donc les pouvoirs publics, la Haute Autorité de Santé annoncent des chiffres, les associations en annoncent d'autres. Et en fait, comme il y a ces erreurs, c'est difficile de trancher. Voilà, parce qu'il y a des gens qui sont accusés à tort. Les chiffres sont un peu douteux.
Comme vous l'avez rappelé, il y a tout un débat justement autour de ce syndrome du bébé secoué. Il y a même un pédiatre en fait qui revient sur ce qu'il avait annoncé en fait en appel, en disant qu'il y avait quand même une part de doute et il remet en cause un peu la haute autorité de santé.
Est-ce qu'il faut savoir qu'en fait, il y a dans le traitement du cas du bébé, du syndrome du bébé secoué, il y a une autorité médicale, la Haute Autorité de Santé, qui a mis en place un protocole permettant de fixer un cadre pour notamment tout le personnel médical pour pouvoir plus facilement traiter ce type de problème. Le souci, c'est que ce cadre pose problème vu qu'il y a certains diagnostics différentiels qui sont établis aujourd'hui, qui sont avérés, et qui tentent à prouver que les symptômes qui sont associés à ce syndrome ne sont pas suffisants pour déterminer le secouement d'un bébé.
Donc aujourd'hui, en fait, la loi est un peu laxiste là-dessus, quoi. Il faudrait pousser un peu...
C'est pas tant une histoire législative, parce que je suis pas sûre qu'il y ait une législation particulière qu'une définition de critères et de cadrage de ce que peut être un enfant secoué. Les critères sont tellement rigides que forcément il suffit de 3 critères pour qu'une famille soit signalée aux autorités judiciaires. À partir du moment où elles sont signalées, l'enfer judiciaire commence et les médecins, enfin tous les gens qui travaillent dans la petite enfance sont tenus de signaler. Donc on signale avant et après, c'est l'enfer. Et après, on peut se rendre compte plus tard, beaucoup plus tard, beaucoup, beaucoup plus tard, que l'enfant, en fait, avait une pathologie ou une autre qui explique les saignements intracrâniens, les hémorragies rétiniennes, etc. Et donc, c'est terrible. Et c'est pas que pour les bébés secoués, d'ailleurs. Ça vaut aussi pour d'autres pathologies du nourrisson qui sont confondues avec des maltraitances. Et là, il y a un vrai... vrai problème de santé publique.
On le voit aussi dans le film avec plusieurs personnes qui viennent témoigner aussi chez Alexandre, je crois. Oui. Et il y a plusieurs scènes comme ça qui sont un peu violentes, j'ai envie de dire, pour la famille et surtout le fait quelque part qu'on leur met dans la tête qu'on pourra jamais être sûr et qui développe en fait presque une culpabilité. Ils sont pas sûrs de pas avoir, d'avoir fait quelque chose de mal ou pas.
C'est vrai que dès que la suspicion est portée sur la famille, sur les parents, sur la personne qui était la dernière à s'occuper de l'enfant, il y a toute la machine judiciaire qui se met en route. Et ce que l'affaire d'Alexandre Chaconne révèle, c'est que l'essentiel de l'accusation, elle s'est portée sur les aveux en garde à vue. Et là où c'est problématique, c'est que les réponses qu'Alexandre Chaconne a donné, elles lui ont été suggérées au cours de cette garde à vue. Donc en fait, il est aujourd'hui accusé plus sur les bases de ce qu'il a déclaré en garde à vue que sur ce qui s'est passé pour lequel on n'a aucun élément concret.
Il y a aussi du coup la question du sursis, parce qu'on le voit dans le film, on appelle, il risque aussi 5 ans de prison avec sursis. Et pour lui, c'est quelque chose dont il ne veut pas. Il veut pas. Enfin, il veut laver son honneur quelque part.
C'est impossible pour lui, et on peut le comprendre, de vivre avec cette condamnation sans réagir. C'est insupportable d'être accusé d'avoir fait quelque chose qu'on n'a pas fait, et d'autant plus quand il s'agit d'avoir tué son enfant. Et alors, il s'est pourvu en cassation. La cassation a été rejetée. Donc maintenant, il est contraint de vivre avec ça. Jusqu'à peut-être, espérons-le, une échéance avec la Cour européenne des droits de l'homme, mais c'est très aléatoire une fois de plus. Et comme c'est un sujet qui touche au principe de précaution, à la protection de l'enfance et à tous ces barrières qu'on met autour de l'enfant qui ne sont pas toujours posées à juste titre, il a peu de chances malheureusement d'aboutir, je le crains.
Et ça montre quelque part aussi la lenteur des procédures et à quel point ça peut mettre un poids sur la famille, sur leur quotidien, sur leur vie.
Ah ben, c'est pas un poids, c'est une chape de plomb. C'est, C'est un enfer, c'est un enfer. Ils se lèvent avec ça, ils dorment avec ça, ils mangent avec ça. Toute la journée, c'est ça. En plus du deuil qui ne... impossible de, du petit Ethan. Et ils sont d'une force assez incroyable, tous les deux, malgré tout.
J'avais une petite question aussi au niveau réalisation. Alors, il y a plusieurs façons de faire qui sont intéressantes aussi dans votre documentaire. Je pense que ce n'est pas si facile que ça de filmer à l'intérieur d'un tribunal. Il y a un huis clos, j'imagine. Et vous avez choisi du coup de représenter les scènes un peu à la façon d'un... Alors, je ne sais plus le nom du métier, mais un genre de greffier avec les images, en fait, en dessin.
C'est un illustrateur, Emmanuel Prost, qui travaille beaucoup avec Charlie Hebdo d'ailleurs. Mm-hmm. Mais en fait, on n'avait pas le choix, parce qu'on ne peut pas rentrer dans une cour d'assises avec une caméra, en tout cas pour l'instant, et encore moins pour un procès d'assises qu'on aurait choisi de filmer. Et donc, il fallait bien qu'on raconte ce procès d'une autre façon. Donc, on a choisi cette illustration-là et ça nous a obligés aussi, ça a été un peu douloureux parfois, à faire des choix un peu drastiques sur qu'est-ce qu'on garde, qu'est-ce qu'on garde pas, parce qu'un procès, il a duré 5 jours. Il y a eu des échanges d'une force et d'une violence inouïe.
Effectivement, on n'a pas pu tout raconter, parce que c'est vrai que la temporalité du 52 minutes nous impose de faire des choix un peu difficiles. Mais il y a eu au cours de ce procès des rebondissements multiples, notamment toutes les personnes qui ont été citées par la défense, tous les professeurs de médecine qui sont venus pour apporter leur expertise de cette situation. En fait, on leur a refusé la possibilité de s'exprimer. Donc, pour des procédures judiciaires qui nous semblent très mystérieuses.
Parce qu'ils ne sont pas reconnus experts judiciaires. Il faut être reconnu expert judiciaire auprès d'une cour d'appel pour pouvoir s'exprimer en tant qu'expert. Et eux ont été réduits à l'état de témoin.
Ils étaient à l'état de témoin, mais on a refusé leur statut de témoin pendant le procès.
Donc on les a, voilà, on les a pas entendus.
Et à contrario, on retrouve justement des experts qui s'expriment aussi avec violence. Je pense à la médecin légiste. Je pense que ça a secoué un peu tout le monde dans la salle et vous avez même eu des questions derrière là-dessus.
Ah ben c'est un truc abominable quand même, dire une chose pareille à des parents. C'est juste inimaginable, quoi. Et, alors j'imagine faut répéter, voilà, la médecin légiste qui se défausse de ne pas avoir rendu la côte ou de ne pas l'avoir expertisé du bébé en disant mais c'est pas grave, il n'a pas été enterré avec sa côte mais il n'a pas été enterré avec ses yeux non plus. Je veux dire, c'est enfin bon, moi j'en étais malade, hein. La mère elle en était malade, je pense que Arnaud, enfin c'était insensé, impensable en fait. C'est juste atroce et c'est gratuit, c'est ça qui est le pire, c'est que voilà. Enfin, dans un procès d'assises, on sait que ça peut être très violent, mais raison de plus pour ne pas s'égarer avec des choses gratuites et dégueulasses.
On a eu un peu le sentiment quand même qu'il y avait, pour la justice, cette affaire était importante dans les histoires de maltraitance sur des nourrissons, parce qu'il y avait quand même en jeu aussi une décision qui pouvait avoir probablement un impact sur d'autres affaires. Et on sent que l'intérêt de la justice était de préserver, comme d'habitude, la protection de l'enfant comme valeur cardinale, et quitte à faire des victimes qui étaient en l'occurrence les parents.
Une dernière question aussi au niveau du rythme du documentaire. On voit Alexandre qui écrit au fur et à mesure l'histoire. Est-ce que c'était juste dans le cadre de ce documentaire ou est-ce qu'il y a éventuellement un livre à paraître et une histoire à raconter? Peut-être que je vais spoiler le...
C'est un peu les deux, parce que c'est vrai qu'Alexandre avait besoin de mettre des mots, de documenter toutes les informations, d'abord parce qu'il il s'est documenté de façon extraordinaire, enfin, c'est incroyable, il en connaît plus que la plupart des gens qui étaient dans cette cour d'assises. Mais c'était aussi un moyen pour nous de faire passer des informations qu'il était compliqué de faire passer autrement, sachant que le film était un film sans commentaire et que c'était à travers les échanges de tous les protagonistes qu'on était censé comprendre un peu tous les enjeux en question.
Mais il a effectivement écrit par ailleurs un livre, donc c'est, on n'a pas inventé quelque chose, quoi. On s'est greffé dessus.
C'était une rencontre avec Anne Hirsch et Arnaud Mansir, réalisateurs du documentaire Jusqu'à l'appel, qui était en compétition dans la catégorie Autrement vu pour la 30e édition du FIGRA, festival international de grands reportages d'actualité et de documentaires de société, qui s'est déroulé du 30 mai au 4 juin dernier. Une catégorie qui pose un autre regard sur la réalité du monde, plus personnelle, plus intime, avec des portraits et des vies bousculées.